Savez-vous qu'il existe au moins 500 journées mondiales dans l'année pour des causes plus ou moins sérieuses ou importantes ? Alors certaines sont plutôt légères, voire farfelues. Par exemple, le 21 janvier, la journée internationale des câlins, le Hug Day. Le 1er vendredi d'octobre, la journée mondiale du sourire. Celle qui est d'ailleurs à l'origine du fameux smiley qu'on met maintenant presque dans chaque message. Premier samedi de septembre, la journée mondiale de la barbe. Le 4 mai, la journée mondiale de Star Wars, parce que c'est « May the Fourth be with you ». D'autres journées plus sérieuses sont soutenues par l'ONU, pour de grandes causes en mémoire des victimes de l'Holocauste, le 27 janvier, ou de l'esclavage, le 25 mars, contre le travail des enfants, le 12 juin, la journée mondiale des réfugiés également, le 20 juin, la journée internationale de la paix, le 21 septembre, etc. Et on l'a déjà dit, il y a une journée importante aujourd'hui. Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Les lobbies féministes se mobilisent pour faire défendre la cause des femmes, trop souvent victimes d'injustices, notamment d'injustices sociales. Alors, on l'a aussi évoqué, toujours pas le même niveau de salaire entre les hommes et les femmes, par exemple. Et c'est largement au-delà de cela, évidemment, et dans de nombreux pays du monde, vraiment le statut de la femme qui est très dévalorisé encore. Comment ne pas penser aussi aux violences que subissent les femmes, les agressions, les regards malsains? Une chrétienne qui vit dans la région de Toulouse est à l'origine d'une initiative qui a commencé il y a quelques années et qui s'appelle « Une place pour elle ». C'est pour ça que vous avez peut-être vu là, à côté de Jean-Philippe, il y a une place qui est vide, une place pour elle. Il s'agit de choisir dans un lieu public une chaise ou une place sur un banc, éventuellement de recouvrir cet endroit d'un tissu de couleur et d'y adosser une pancarte, une place pour elle, elle au pluriel. Une chaise vide pour signifier l'absence des femmes victimes de violences et notamment de violences conjugales. Savez-vous que en France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son partenaire. Chaque année, plus de 200 000 femmes se déclarent victimes de violences conjugales en France. Plus de 80 000 femmes adultes se déclarent victimes de viols ou tentatives de viol. Et les chiffres explosent si on parle de toutes les formes de violences dont sont victimes les femmes, physiques, psychologiques, verbales, sexuelles, économiques, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans le cadre du travail ou ailleurs. On en entend plus parler aujourd'hui, après une certaine libération de la parole via les hashtags MeToo, par exemple, sur les réseaux sociaux, et suite à tous les scandales qui ont éclaté. Faut-il en parler dans l'Église ? Il y a quelques années, un collègue pasteur a été contacté par une journaliste de l'hebdomadaire Réforme pour rédiger un article à propos des violences faites aux femmes. Et le journaliste voulait savoir ce qu'on faisait et ce qu'on disait de ce sujet dans les églises évangéliques. Et il faut reconnaître qu'on n'aborde pas souvent le sujet. Pourquoi en parle-t-on si peu, alors que c'est un sujet majeur dans notre société ? Pense-t-on que les cas évoqués dans les médias ne se rencontrent pas dans les églises évangéliques ? Se voile-t-on la face pour préserver l'image de couple et de famille unis parce qu'on est chrétien ? N'impose-t-on pas quelquefois aussi un silence qui fait peser un poids sur les femmes qui subissent ces violences ? Aux États-Unis, la parole s'est encore plus libérée qu'en France avec un hashtag Church Too, qui est apparu dénonçant les violences subies au sein de l'Église. des églises évangéliques et même des responsables évangéliques étaient concernés, y compris des pasteurs connus dans le monde entier. Comme par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Bill Hybels, pasteur principal d'une église de 40 000 personnes à Chicago, et plus récemment en France, d'autres scandales également. Est-il légitime d'aborder ces questions dans les églises ? Oui, bien sûr. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un impératif qui est constant dans toute la parole de Dieu, au fil de toutes les pages qui traversent autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Nous devons protéger les faibles, prendre soin des rejetés, des victimes de toutes sortes de violences. Toutes les formes de violence. La Bible a des choses à nous dire à ce propos. Et on va l'évoquer en parlant d'abord des rapports entre les hommes et les femmes. Et dans un deuxième temps, on lira aussi un texte dans le Nouveau Testament. Alors au début, tout se passait bien, dans l'harmonie. Dans le récit de Genèse 1, l'homme et la femme sont créés en même temps. Dans le récit de Genèse 1, je dis bien. En parfaite égalité, Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Genèse 1, 27. La Bible enseigne donc que c'est en tant qu'hommes et femmes que les humains, ensemble, sont créés à l'image de Dieu. Dans Genèse 2, tout est aussi paisible et harmonieux. Alors certes, dans ce deuxième récit, la femme est créée après l'homme, mais le texte souligne que tant que la femme n'avait pas été créée, la situation n'était pas satisfaisante. Dieu fait le constat, vous l'avez déjà lu, j'en suis sûr, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lorsque l'homme voit la femme pour la première fois, il va exprimer une joie en disant « Cette fois, voici quelqu'un comme moi, elle tient vraiment de moi par tout son corps. » C'est dans la version Parole de vie, vous avez peut-être une version plus littérale, hein, « Os de mes os ». Chair de ma chair, hein, elle tient de moi par tout son corps. C'était version Parole de vie. Donc Genèse 1, Genèse 2, tout va bien. Tout est harmonieux entre les hommes et les femmes. C'est à partir de Genèse 3 que ça se complique. Le serpent met en doute la parole de Dieu, fait naître la suspicion dans le cœur de la femme et de l'homme qui désobéissent à Dieu. À ce moment-là, l'harmonie qui existait, est brisée avec Dieu, mais aussi entre l'homme et la femme. Nous lisons en Genèse 3, 16, « Ton désir se portera vers ton mari, et lui, il te dominera. » Nous voyons donc que, d'un point de vue biblique, la domination de l'homme sur la femme est une conséquence du péché, et pas l'expression d'un ordre créationnel. Dans l'Ancien Testament, Dieu parvient à faire émerger quelques femmes, comme Myriam, par exemple, en tant que prophétesse, la sœur de Moïse, ou Déborah, qui va délivrer son peuple. Cela dit, la domination masculine est écrasante lorsqu'on lit l'Ancien Testament et on a beaucoup plus de récits de vie d'hommes que de femmes. Dans les évangiles, les choses commencent à changer. Les 12 apôtres sont des hommes, mais bon nombre de femmes font partie des proches de Jésus et sont également dans le cercle des disciples plus large. Elles jouent un rôle important. Plusieurs sont données en exemple de foi. Un texte dans l'évangile de Luc précise même que ce sont des femmes qui vont soutenir financièrement Jésus et ses disciples. Et il est important de souligner que les premiers témoins de la résurrection sont également des femmes. Et ce changement qui commence à venir là avec ces quelques passages des évangiles se poursuit dans le reste du Nouveau Testament. Dans les Actes des apôtres, Priscille a instruit Apollos, Lydie a été la première chrétienne en Europe. Dans les salutations de ses épîtres, l'apôtre Paul nomme plusieurs femmes et les appelle ses collaboratrices. Phoebé est désignée comme ministre de l'église de Sancré. Et Junia, même comme apôtres. Évodie et Saint-Tiche, alors elles sont surtout connues parce qu'elles se disputaient, et on oublie des fois que Paul nous dit qu'elles ont combattu avec lui pour répandre la bonne nouvelle. On pourrait dire des femmes évangélistes avec un ministère d'annonce de la parole, de la bonne nouvelle. Or, cette évolution ne se fait pas sans difficulté. L'apôtre Paul doit plusieurs fois répondre à des questions ou des problèmes quant à la place des femmes dans l'Église. Et il y répond en tenant compte des usages et des traditions de sa culture et de son époque. Et c'est, à mon avis, les raisons des restrictions qu'on voit figurer dans certaines épîtres. N'oublions pas que ce sont des lettres, écrites aussi dans un contexte bien précis. Mais quand il évoque le changement radical qu'apporte l'Évangile aux chrétiens, jusque dans leurs relations, il affirme avec force, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Ça, c'est Galates 3, verset 28. Et dans ce verset, on évoque trois fractures qui existaient dans la société à l'époque, qui étaient appelées à disparaître sous l'influence de l'Évangile, entre juifs et non-juifs. Donc c'était même des fractures qui étaient jusque dans l'Église, hein. Les églises qui réunissaient juifs et non-juifs, chrétiens d'origine juive et non-juive, entre esclaves et hommes libres. Une autre différence encore qui était appelée à disparaître, et ça a mis du temps dans l'histoire, entre hommes et femmes. Il faut reconnaître que cette distinction entre hommes et femmes, cette fracture qui existe, perdure encore aujourd'hui dans de nombreux pays du monde, dans une moindre mesure en France également. Lorsque Paul parle de la transmission de la foi, il dira à Timothée, « Ce que tu as reçu, transmets-le à des hommes capables de le retransmettre à d'autres. » Et ce qui est intéressant, en fait, dans ce verset-là, c'est de voir que le mot « homme » que Paul utilise, c'est le terme générique, les êtres humains. Ce que tu as reçu, transmets-le à des êtres humains, hommes ou femmes, capables de le retransmettre à d'autres. C'est le mot « anthropos » qui est utilisé, l'être humain, l'humanité dans son ensemble, homme et femme. Ce n'est pas l'homme masculin. Il y a un autre mot pour cela. Les hommes sont donc au même titre que les femmes sont au même titre que les hommes, de véritables transmetteuses de la foi, de la parole de Dieu, et le texte ne dit pas non plus que les femmes ne doivent transmettre cette parole qu'à d'autres femmes, à d'autres, tout simplement, elles pourront le retransmettre à d'autres. Si je reprends aussi ce verset, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. C'est assez évident que dans l'Église, les distinctions qui sont mentionnées là ne devaient plus se voir. Si un esclave, on lui disait « ne prends pas la parole parce que tu es esclave, laisse uniquement la parole au maître », cela aurait été un scandale. Si on disait « à vous les croyants d'origine juive, vous pouvez être des enseignants dans l'Église », et vous qui êtes d'origine païenne, non juive, même si vous reconnaissez Jésus comme le Seigneur, laissez quand même à ceux qui sont d'origine juive, du peuple de Dieu, les responsabilités dans l'Église. Ce ne serait pas normal. Alors pourquoi, avec hommes et femmes, dans certaines églises encore aujourd'hui, on dit « Eh ben non, là c'est bon, il n'y a pas de problème, tout est OK avec la parole de Dieu ». Ça devrait être considéré comme une injustice. Ce verset, en fait, il lance tout un mouvement dans l'histoire. Alors, l'abolition de l'esclavage, maintenant, on en est dans nos sociétés sorties. Il faut toujours être vigilant à ce que de nouvelles formes d'esclavage ne finissent pas par apparaître. La différence entre juifs et non-juifs, c'était beaucoup lié au contexte du Nouveau Testament. Je pense qu'aujourd'hui, dans les églises, de toute façon, on est une très grande majorité d'origine païenne, Quelques-uns parmi nous ont du sang juif dans leurs ascendants. Mais hommes et femmes, alors là, on est encore pleinement concernés aujourd'hui. Voilà, voilà la réflexion. Et ce mouvement que cette parole lance dans l'histoire commence un petit peu à... Voilà, cette fracture qui existe entre les hommes et les femmes commence un petit peu à être réparée, comblée, avec justement quelques avancées pour le droit des femmes, qui, je le rappelle, il y a un siècle ou à peine un peu plus, n'avaient pas accès à plein de choses. Où aujourd'hui, on dirait que c'est scandaleux. Par exemple, une femme ne pouvait pas jouer d'un instrument de musique. Il y a un peu plus d'une centaine d'années, c'était interdit. Parlons pas du droit de vote, hein, ça a mis jusqu'en 1945 pour que les femmes aient le droit de vote. Et on ne peut que souhaiter que l'égalité continue à avancer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut que la femme soit supérieure à l'homme, mais que ce soit l'égalité tout simplement. Et si nous étions alors, du coup, en avance pour une fois sur notre société dans l'Église, ce serait bien, non ? Ailleurs dans le Nouveau Testament, plusieurs textes soulignent la nécessité de relations transformées par Jésus-Christ. À la suite de l'exemple qui est laissé par Jésus-Christ, l'idéal évangélique pour tous, hommes ou femmes, c'est de se soumettre les uns aux autres. Paul dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Éphésiens 5, verset 21. Ou comme le disait Jésus aussi en Marc 10, 44, « Si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave ou le serviteur, c'est le même mot, de tous. » Lisons ce que Paul a écrit dans sa lettre aux chrétiens de Philippe. Alors on l'a vu l'année dernière, cette lettre, on l'a parcourue demi-chapitre par demi-chapitre. Et ce sont les versets qui précèdent immédiatement ce grand hymne à la gloire du Fils de Dieu qui a quitté justement cette gloire du ciel pour venir sur la terre jusqu'à la mort sur la croix. Et juste avant, on peut lire « Votre union, donc Philippiens 2, versets 1 et 4, « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. » Eh bien, on pourrait tout simplement lire ce texte aussi en pensant aux relations entre les hommes et les femmes. Et on a là une exhortation qui est alors générale, fondamentale et vraie pour tout chrétien, homme ou femme, une exhortation motivée par l'union avec Jésus-Christ, son amour pour nous, notre communion avec le Saint-Esprit, le lien qui nous unit entre croyants. Une exhortation à nous soumettre les uns aux autres, à rechercher l'intérêt de l'autre comme supérieur au sien. Que chacun puisse non pas seulement penser à son propre intérêt, mais aussi à celui des autres. Et l'exhortation de l'apôtre Paul se résume par cette formule choc, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Alors l'idée n'est pas de se rabaisser soi-même, mais elle est d'élever l'autre. Et en élevant l'autre, on ne se rabaisse pas soi-même. Il s'agit de refuser toute relation qui est basée sur une forme de domination, pour remplacer cela par des relations basées sur le service. L'exemple de Jésus s'impose. Lui qui a littéralement pris la position du serviteur en lavant les pieds de ses disciples, Il a dit, je vous ai donné un exemple, ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Et en réalité, on adopte la posture du serviteur. Quand on adopte cette posture, eh bien, on n'est plus du tout dans une relation dominée-dominant. Toute tentation de domination va tomber lorsqu'on est au service de l'autre. Il ne peut plus être question de violence non plus, si on adopte la posture du serviteur, parce qu'on va rechercher les intérêts de celui ou celle au service duquel on se met, ou de laquelle on se met. L'exhortation de ces quelques versets de l'Épître aux Philippiens est donc pertinente pour toutes les relations où la tentation de domination existe, tentation qui est encore bien présente aujourd'hui, et on trouve également cette tentation en lien avec la fonction, des fois, dans... Pensons au travail, par exemple, les relations hiérarchiques au travail, ça peut être une tentation pour ceux qui sont en position de responsabilité et d'autorité. En lien avec l'expérience ou la connaissance aussi, moi j'ai l'expérience, j'ai la connaissance, donc je suis tenté de dominer l'autre. La culture, peut-être on pense que certaines cultures sont supérieures à d'autres, je pense que ce n'est pas vrai, mais voilà, on peut être tenté de penser qu'une culture est supérieure à une autre. L'âge aussi. Après tout, j'ai quand même plus de vécu, j'ai rien à changer, c'est à lui de changer. Dans l'Église, toute autorité est une autorité de service, à l'image de l'exemple de notre Seigneur. Il est anti-biblique, contraire à l'Évangile, qu'une autorité s'exerce par la domination, peu importe qu'on parle d'un homme ou d'une femme. Et j'en arrive déjà à quelques mots de conclusion. Dans cet article Réforme dont je faisais allusion il y a quelques minutes, une psychologue témoigne du cas d'une femme qui lui avait confié qu'elle subissait des violences conjugales et qu'elle craignait pour sa vie. Elle lui avait conseillé de trouver de toute urgence un lieu pour être en sécurité, mais elle a appris 4 mois plus tard que cette femme avait été tuée par son mari. Plusieurs années après, elle apprend que cette femme était pourtant bien partie se mettre à l'abri chez sa mère et que c'était son église qui avait fait pression pour qu'elle rentre chez elle. Ne faisons pas la même chose. Si aujourd'hui vous êtes dans une telle situation, pensez à vous mettre, vous et vos enfants si vous en avez, à l'abri. Osez briser le silence. Et en tant qu'Église, nous sommes prêts à vous entendre et à ne pas nous voiler la face. Autour de nous, en dehors de l'Église, nous avons peut-être aussi des femmes qui sont dans cette situation et qui nous tendent des perches, nous lancent des appels au secours dissimulés. N'y soyons pas sourds. Restons à l'écoute. Une écoute compatissante. Examinons aussi toujours nos paroles, nos attitudes, nos relations dans l'Église et en dehors, demandons à Dieu de nous purifier de toute forme de violence physique, verbale, psychologique, de toute tentation de domination. Choisissons d'emprunter humblement le chemin que nous a ouvert Jésus-Christ, celle du service, et soyons en avance dans ce domaine, sur notre société. Amen.